Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 8 et le titre que nous allons donner, c'est « Dieu déplace les montagnes, mais la foi et la prière déplacent Dieu ». Je répète, Dieu, lui, il déplace les montagnes. Mais voyez-vous, la foi et la prière, eux, ils déplacent Dieu. La parole de Dieu est indispensable pour notre connaissance et pour notre foi en lui. Et nous avons besoin d'avoir le plus de connaissances possible de sa sainte parole. La parole et le sang vont de pair. La parole dit et le sang agit. Je répète, la parole, elle dit et le sang va agir. De même que certains pasteurs n'ont rarement fait un serment sur le sang, certains chrétiens également ont rarement prononcé le mot « sang » depuis leur conversion. Et ce sujet semble être complètement absent de leur esprit. Mais voyez-vous, Dieu a pourtant bien instruit les Israélites en leur demandant d'observer la Pâque comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, nous est-il dit dans Exode chapitre 12, verset 24. À perpétuité signifie pour l'éternité. Le Seigneur n'a jamais changé d'avis sur l'alliance de sang qu'il a faite avec son peuple. Elle n'a pas été limitée aux 40 années que les enfants d'Israël ont passées à travers le désert pour se rendre dans la terre promise. L'ordre avait pris effet bien avant qu'ils n'atteignent leur destination. Il est dit dans l'Exode, au chapitre 12, verset 25, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, eh bien vous observerez cet usage sacré. » Exode, chapitre 12, verset 25. Mais notre célébration ne s'arrête pas là. Dieu a remplacé le sang de l'agneau et des chèvres par le sacrifice parfait, c'est-à-dire par le sang de son Fils bien-aimé. Et par ce même signe, nous allons célébrer son alliance pour l'éternité. On m'a posé une fois la question « Combien de fois devons-nous demander à Dieu de nous couvrir du sang de Jésus-Christ ?» Eh bien, personnellement, je le fais chaque fois que je prie. Il ne se passe pas une journée que je n'ai pas dit dans mes prières « Seigneur, couvre telle et telle personne de ton sang précieux. » Et c'est pourquoi c'est si merveilleux lorsque des parents demandent au Seigneur de protéger leurs enfants par son sang précieux. Non seulement les enfants vont plus tard les imiter, mais ils ne manqueront pas non plus de poser des questions à ce sujet. Les parents ont alors l'occasion de leur dire ce que Jésus a fait pour eux. Le célèbre prédicateur et écrivain, le docteur Torrey, dans son ouvrage merveilleux « How to obtain fullness of power »« Comment obtenir la plénitude de la puissance », il dit que la prière peut tout ce que Dieu peu, car le bras de l'Éternel répond à la moindre prière. Je répète, la prière peut absolument tout ce que Dieu peut faire, car le bras de l'Éternel répond à la moindre prière. Les ressources infinies de Dieu se trouvent dans la prière d'intercession. Il est aussi dit ceci, « Il n'existe qu'une seule limite à la prière, celle des possibilités de Dieu. Mais toutes choses sont possibles à Dieu, par conséquent, la prière est omnipotente. Seul Dieu peut déplacer les montagnes, mais la foi et la prière déplace Dieu. Je pense que la prière et la foi passent à l'action, car lorsque nous prions, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a vous appartiennent. Tout ce dont vous avez besoin est de demander. Comme le dit la Bible, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques, chapitre 4, verset 2. Je l'ai entendu dire, le plus fort dans le royaume de Christ, c'est celui qui frappe le plus fort à la porte. Alors frappez et vous trouverez. Saint Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Ces versets sont tirés de la Bible de version Darby. Dieu entend nos prières et y répond parce que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de nos péchés et nous a donné accès au trône de Dieu. Les instructions lévitiques sur la purification de la lèpre nous donnent un riche aperçu de la puissance du sang de Christ. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu transmit ses ordonnances, il parla à Moïse et lui dit « La loi sur le lépreux pour le jour de sa purification est importante. » Lévitique chapitre 14, verset 2. Et David Alsobrook, dans son merveilleux ouvrage « The Precious Blood », « Le précieux sang », nous donne un excellent enseignement sur ce sujet. Sa compréhension sur la signification des symboles dont je vais vous parler m'a vraiment aidé à saisir le message spécial que ces passages nous transmettent aujourd'hui. Dans la Sainte Écriture, la lèpre s'applique à toutes sortes de maladies de la peau. Elle est aussi le symbole du péché. Ainsi, la purification du lépreux préfigure le projet de Dieu de purifier l'humanité entière du péché. Chers amis, il nous est dit que le sang de Christ a été versé à 7 reprises différentes au cours des heures qui ont entouré sa crucifixion. Premièrement, il y avait sa sueur. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc, chapitre 22, verset 44. Deuxièmement, son visage. J'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ésaïe 50, verset 6. Or, les hommes de ce temps-là avaient des fortes barbes. Et croyez-moi, c'est pas la même chose de se raser que d'arracher la barbe. Ça peut saigner. Troisièmement, sa tête. Ils dressèrent. Ils ont donc tressé une couronne d'épines, comme vous le savez, qu'ils n'ont pas posé très délicatement sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main, puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, et prenait le roseau, et frappait carrément sur la tête. Matthieu chapitre 27, versets 29 et 30. Donc, en frappant fort les épines, vous pouvez bien comprendre, se sont enfoncées dans la tête, et ça fait également saigner. Quatrièmement, son dos. Alors Pilate leur relâcha le criminel Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus-Christ, il le livra pour être crucifié. Matthieu chapitre 27, verset 26. Ça aussi, ça fait saigner. Cinquièmement, ses mains, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont même percé mes mains. Psaume chapitre 22, verset 17. Ça également, ça fait saigner. Sixièmement, ses pieds. Ils ont percé mes pieds. Psaume chapitre 22, verset 17. Croyez-moi, ça fait saigner. Et septièmement, son côté. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 34. Que se passait-il après que le lépreux ait été aspergé cette fois de sang? Le chiffre 7, voyez-vous, est un chiffre divin. Eh bien, il pouvait de nouveau entrer dans la ville après cela, de même qu'après avoir été purifié par son sang, nous devenons fils et filles du Dieu vivant et membres de sa famille. Grâce au sang de Jésus-Christ, les écluses de l'onction de Dieu peuvent donc se déverser dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai appris lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parla de la mort du Seigneur et de sa résurrection. Ensuite, il dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, verset 33. N'oubliez jamais que le Seigneur a acquis la rédemption de l'homme par sa mort expiatoire et par sa résurrection, et puis qu'il est monté au Père et lui a présenté le sang, la preuve formelle de la rédemption. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 9, versets 11 et 12, que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Lorsque l'Éternel Dieu accepta le sang versé de Christ, son Fils, oui, son Fils bien-aimé, eh bien, je pense que le Christ reçut de son Père le don du Saint-Esprit afin qu'il le répande sur ceux qui croyaient en lui. Et à présent, le Saint-Esprit est sur la terre pour nous permettre de vivre notre foi chrétienne, car Dieu, parlant par le prophète Ézéchiel, nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez toutes mes lois. » Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Donc, non seulement l'Esprit Saint nous aide dans notre vie chrétienne, mais il nous fait véritablement ressentir la présence de Dieu, car il est dit « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit Saint sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 39, verset 29. Je n'aurais pas dû être surpris lorsque tout a changé dans ma vie grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui se produit, chers amis, lorsque vous rencontrez l'Esprit de Dieu. Le prophète Samuel le décrit à Saül de cette manière. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. Chers amis, le Saint-Esprit peut-il vraiment nous changer complètement? La réponse est oui, absolument. Si le Seigneur peut transformer la poussière de la terre en homme, simplement par son souffle, pensez à ce qu'il peut faire en soufflant de nouveau sur nous. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes chapitre 2, verset 2. Ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute sentir le souffle du Tout-Puissant. Et ils furent transformés. Lorsque l'Esprit Saint investit votre existence de puissance, attendez-vous à ce que ces trois faits se produisent dans votre vie. Primo, le Seigneur sera très proche de vous. Secondo, en raison de votre relation avec Dieu, votre désir ultime sera de marcher dans les voies du Seigneur. Et tierso, vous serez miraculeusement transformé en une autre personne. Je suis convaincu que le Saint-Esprit vivant est présent sur la terre aujourd'hui et le signe de l'alliance que Dieu a faite avec nous par le sang de son Fils Jésus-Christ. Car il est dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens chapitre 1, verset 13. Chers amis, vous pouvez maintenant faire, par exemple, la prière suivante. Seigneur, envoie le Saint-Esprit dans ma vie. Remplis-moi de ta puissance. L'Esprit Saint vient lorsque nous honorons la mort de Jésus-Christ et son sang précieux. Par exemple, dans l'ancienne alliance, lorsque le sang était offert, Dieu envoyait le feu et sa gloire descendait. Vous souvenez-vous ce qui arriva à la dédicace du grand temple de Salomon ? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit toute la maison. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Jean-Baptiste, il disait ceci, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est bien plus puissant que moi, et je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses souliers ou de ses sandales. Mais lui, croyez-moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Évangile de Saint-Luc, chapitre 3, verset 16. Après que Jésus-Christ a versé son sang au calvaire, le Saint-Esprit revint sous la forme du feu. J'ai bien dit sous une forme. J'ai pas dit que c'était le feu. Les disciples étaient rassemblés à Jérusalem comme Jésus-Christ le leur avait demandé. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Ce n'était pas du feu tel quel, mais c'était seulement semblable à du feu. Si vous vous approchez de Dieu par le sang de Jésus-Christ, il remplira votre vie de toute la gloire de son Esprit Saint. Andrew Murray, un auteur chrétien qui était très célèbre dans le siècle passé, parle de la relation qui existe entre le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dans son ouvrage intitulé « The Power of the Blood », « La puissance du sang », il dit « Si on honore le sang par la foi ou par la prédication, alors l'Esprit est à l'œuvre. » Et là où il œuvre, il conduit toujours les âmes vers le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous permet de servir Dieu. Et Dieu a déclaré à Moïse, « Et tu les oindras pour qu'ils soient à mon service dans mon sacerdoce. » Exode chapitre 40, verset 15. Ma prière de tous les jours est celle-ci. Seigneur, ne me retire jamais ton onction, car je connais les dangers que nous rencontrons si l'onction nous était retirée. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une déclaration similaire faite par le docteur Billy Graham. J'ai demandé à Dieu, dit-il, que s'il m'arrivait une seule fois de monter en chair sans être conscient de la plénitude de l'Esprit Saint de Dieu et de son onction, et si je ne prêchais pas avec compassion et avec conviction, qu'il me reprenne sans plus tarder dans son royaume. Vivre, monter en chair et prêcher sans la puissance du Saint-Esprit est dangereux. Je ne veux pas courir ce risque, disait le docteur Billy Graham. La vie de Saül nous enseigne une grande leçon. Saül avait été choisi par Dieu et sa vie avait été transformée. Mais vint le jour où il choisit de ne plus observer les lois sur les sacrifices que Dieu avait donnés aux Israélites. Voici ce que Samuel nous dit de Saül. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. 1 Samuel chapitre 13, verset 13. Non seulement le roi Saül a perdu l'onction, mais il lui arriva quelque chose de bien pire. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Et l'histoire de Samson, que tout le monde connaît, nous donne un autre exemple. Lorsque le Saint-Esprit se retira de sa vie, il devint prisonnier et esclave des Philistins qui lui ont percé les yeux et il a perdu la vue. La Bible précise que pendant son sommeil, Samson avait perdu l'onction. C'est écrit dans le livre des Juges, chapitre 16, versets 18 à 20. Le sommeil est en quelque sorte le symbole de l'absence de prière. En tant que saint, ne négligeons pas la prière et ne rejetons pas la parole de Dieu. Si précieuse qu'elle soit pour nous, c'est grave car la crainte de perdre sa merveilleuse onction peut avoir des conséquences négatives. Je ne désire rien de plus au monde, croyez-moi, que de posséder cette onction. Et je suis sûr que c'est aussi votre plus grand désir. N'oubliez pas que lorsque vous marchez en obéissance à Dieu, vous ne devez pas craindre de perdre votre onction. Au contraire, attendez-vous aux bénédictions du Seigneur. C'est ce que nous allons voir dans l'étape suivante sur la purification du lépreux. Tous les jours, remercions Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu parce que son sang a été versé pour nos péchés, et aujourd'hui, nous connaissons cette onction qui nous vient de Dieu dans nos vies et dans nos œuvres. Lorsque la précieuse huile de l'Esprit Saint nous investit de puissance, nous sommes libérés des chaînes de l'esclavage. Et le prophète Ésaïe a écrit « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Ésaïe, chapitre 10, verset 27, version Darby. Mais vous savez, les versions bibliques sont en français plus ou moins identiques. Donc, c'est simplement une version, la version Darby, qui, selon ceux qui ont étudié à fond l'hébreu et le grec, nous disent qu'elle est très, très exacte. Donc, nous avons découvert, chers amis, comment le sang avait purifié le lépreux qui symbolisait l'homme pécheur. Mais ceci n'était que le début de la purification. Voyons ensemble un peu ce qui arriva ensuite au lépreux. Le sang lui donna également la possibilité d'être oint. Quand un homme était autorisé à revenir dans le camp, il nous est dit dans Lévitique 14, verset 8, qu'on lui demandait de prendre deux agneaux sans défaut et une brebis d'une année également sans défaut. 3/10 d'un épas de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile, environ 1 demi-litre d'huile. Lévitique chapitre 14 verset 10. Le sacrificateur devait prendre l'un des agneaux et l'offrir en sacrifice de culpabilité. Lévitique 14, verset 12. Et ceci en réparation d'un péché particulier. Ensuite, il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Lévitique chapitre 14, verset 13. Avez-vous remarqué que l'homme offrait davantage de sacrifices après avoir été purifié et après avoir reçu l'autorisation de revenir dans le camp. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Mais nous continuons à lui demander de nous purifier et de nous protéger par son sang précieux. Le Seigneur Jésus-Christ a même enseigné à ses disciples à prier de la façon suivante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Saint Matthieu, chapitre 6, versets 12 à 13. Je crois que Dieu avait un plan spécifique à chaque application de sang. D'abord, le sacrificateur devait prendre du sang de la victime de culpabilité et en mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Lévitique, chapitre 14, verset 14. Si le sang est appliqué sur nos oreilles, il forme un bouclier contre la voix de nos ennemis. Car le psalmiste a crié « Ô Seigneur !» Il a dit « Écoute-moi et réponds-moi. Je m'agite dans ma plainte et je me lamente à cause de la voix de l'ennemi et devant l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi l'iniquité et me poursuivent avec passion. » Psaume chapitre 55, versets 2 à 3, toujours de la version Darby. En tant que chrétiens, nous avons toute puissance sur les attaques verbales de l'ennemi. Car la Bible nous dit « Toute arme forgée contre toi sera absolument sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Ésaïe 54, verset 17. Quelle langue s'élève donc contre nous? Ce sont les langues mensongères des ennemis du Seigneur? Mais nous avons le pouvoir de condamner ses voies par le sang de Christ et par l'autorité de sa sainte parole. Si quelqu'un me dit que le diable lui a parlé, je lui rappelle les merveilleuses paroles que Jésus-Christ a prononcées. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Saint Jean, chapitre 10, verset 27. Ce n'est pas la voix de Satan, cela, que nous devrions écouter, mais la voix de notre Sauveur. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'appliquer le sang sur nos oreilles. Pourquoi pas? Ensuite, le sacrificateur s'approchait du lépreux et appliquer le sang sur le pouce de sa main droite. Lévitique, chapitre 14, verset 14. Nos mains représentent l'ouvrage que nous faisons. Il est merveilleux de savoir que le Seigneur nous guide et nous protège dans notre travail. David a dit: que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains, est-il dit dans le psaume, chapitre 90, verset 17. Et Dieu a dit à Ésaïe: « Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. » Ésaïe 61, verset 8. Enfin, le sacrificateur appliquait le sang au lépreux sur le gros orteil de son pied droit. Lévitique, chapitre 14, verset 14. Car voyez-vous, nos pieds sont le symbole de notre marche avec le Seigneur. Il est dit dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. Alors que le sacrificateur a appliqué le sang sur l'oreille du lépreux, sur sa main et sur son pied, Dieu dit « Maintenant, c'est le moment de l'onction ». Voici ce qui se passa. On demanda au sacrificateur de prendre du log d'huile, donc là où il avait mis l'huile, probablement dans une cruche. Il en versa dans le creux de sa main gauche et avec le doigt droit devait faire 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Lévitique 14, versets 15 à 16. Or, le chiffre 7 est un chiffre divin. À travers toutes les saintes Écritures, l'huile d'onction représente l'œuvre du Saint-Esprit dans la mise à part pour le service et dans le revêtement de la puissance de Dieu. Il est donc primordial de comprendre que Dieu oint ce que le sang a couvert. L'onction du Saint-Esprit suit le sang. L'huile pour l'onction était aspergée 7 fois, qui est le chiffre de la perfection de Dieu. Ceci pour une onction totale. Ce qui suit peut vous paraître un peu répétitif, mais Dieu accomplissait quelque chose de vraiment nouveau. Le sacrificateur prenait l'huile et oignait une fois encore l'oreille droite du lépreux, son pouce droit et son gros orteil droit. Le sang s'y trouvait déjà. Mais l'huile pour l'onction était placée dessus, car là où se trouve le sang de la croix, se trouve l'onction de l'Esprit Saint. Et je pense que l'onction augmente les effets bénéfiques du sang. Lorsque le sang est appliqué sur nos oreilles, nous n'entendons pas la voix de l'ennemi. Et Dieu nous revêt alors de l'onction de façon à ce que nous puissions entendre sa voix. Lorsque le sang est appliqué sur nos mains, le diable ne peut toucher notre ouvrage pour Dieu et l'onction multiplie nos efforts. Lorsque le sang est appliqué sur nos pieds, Dieu oint nos pas de sorte que nous puissions marcher avec lui. Notre marche a aussi besoin d'être purifiée par la parole de Dieu. Jésus a dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. » Et c'est dans l'évangile de Saint Jean, je crois, chapitre 13, verset 10. Donc, sachez, mes chers amis, que nous avons été rachetés et lavés par son sang précieux, mais notre marche a besoin d'être purifiée par sa sainte parole tous les jours de notre vie. Éphésiens 5, verset 26. Pourquoi cela? Parce que nos vies sont en contact permanent avec la souillure de ce monde. Dans l'ancienne alliance, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui a donné des détails très précis pour toute chose, y compris pour les vêtements dont les sacrificateurs avaient besoin. Mais on ne trouve aucune précision quant à leurs chaussures. Lisez Exode chapitre 39. Ils ne devaient pas oublier qu'ils continuaient de fouler la poussière de la terre, et c'est la raison pour laquelle il leur fallait donc marcher pieds nus. Et en tant que chrétiens, nous sommes en contact avec le monde tous les jours, et c'est pourquoi nous avons besoin de revenir vers le Seigneur quotidiennement et de lui dire « Purifie-moi et lave-moi encore. » Que Dieu demande-t-il au sacrificateur de faire? Qu'est-ce que Dieu a demandé au sacrificateur de faire de l'huile qui restait encore? Eh bien, le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la cruche, dans la main, sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Lévitique, chapitre 14, verset 18. Donc, nous voyons que Dieu veut nous couvrir en totalité, pas seulement la tête, mais la tête, les pieds, et tout, et de l'huile de son Esprit Saint. Il veut donc couvrir nos pensées, notre vue, nos paroles et notre vie tout entière. Non seulement nous sommes purifiés par son sang précieux, mais nous sommes aussi oints par son Esprit Saint. Il en est cependant beaucoup parmi nous qui pensent ne pas être suffisamment bons pour l'onction du Seigneur en raison de leur ou de notre passé. Mais, chers amis, permettez-moi de vous dire quel est l'effet du sang versé de Jésus-Christ sur votre passé. Nous allons voir cela maintenant. Oui, chers amis, quelque chose de très important, c'est pour chacun d'entre nous, ça concerne l'ensevelissement de notre passé. Des millions de gens vivent dans le désespoir permanent, car ils ne peuvent oublier leur passé. Ils se laissent tourmenter par leurs souvenirs et ceux-ci les conduisent parfois à la dépression, à l'angoisse mentale, voire même le suicide. Satan connaît nos faiblesses. Il utilise nos erreurs passées pour nous torturer et pour nous piéger. La plus grande arme dont le diable se sert contre nous, c'est évidemment notre passé. Mais loué soit le Seigneur, car le sang de sa croix efface toutes ces œuvres mortes de votre conscience. La Bible nous dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans aucune tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux chapitre 9. Versets 13 et 14. Imaginez la liberté que pourrait vous procurer la délivrance de votre passé. saisissez-vous pleinement le sens d'une vie dans laquelle il n'y aurait plus de culpabilité et plus de condamnation. Peut-être croyez-vous que votre passé est beaucoup plus encrassé que celui des autres. Mais le docteur Torrey nous dit ceci. Si nous avions la possibilité de voir notre passé tel que Dieu le voyait avant qu'il ne le blanchisse, il serait totalement noir. Mais si nous marchons dans la lumière, soumettant la vérité à Dieu, ayant foi en la lumière divine de Christ, eh bien notre passé est alors aussi blanc que le vêtement du Seigneur lorsque ses disciples le virent sur la montagne de la transfiguration. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 17 verset 2 et dans Marc chapitre 9 verset 3, également dans l'évangile de Luc chapitre 29. Luc chapitre 9 verset 29. Laissez ces paroles, chers amis, pénétrer votre cœur et dès l'instant où le sang versé de Christ a été appliqué sur votre cœur, votre passé a été enseveli. Votre passé est à présent effacé et oublié pour toujours dans la gloire. Vivre avec serait évidemment une insulte à Dieu. Chers amis, imaginez une salle d'audience où Dieu est le juge. Vous vous tenez devant lui, en présence de sa sainteté, et vous vous sentez accablé par le poids de votre péché. La voix de Dieu s'élève contre vous, tonitruante. Je sais bien que tu es coupable, et vous tremblez de tous vos membres, attendant la sentence de mort. Mais Dieu poursuit. Il dit : tu es coupable, mais je te déclare juste. Ta peine est levée, elle est effacée, tu es sanctifié. C'est ce qu'on appelle la justification. Dieu vous donne une nouvelle identité. Vous repartez sur de nouvelles bases. Ça change tout. Votre dette est payée. Votre passé est balayé. Dieu vous déclare juste à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, et ceci de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains, chapitre 3, versets 25 et 26. Le sang versé de Jésus-Christ nous délivre de la colère qu'un Dieu saint déversait contre notre péché. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang précieux, serons-nous sauvés par lui, et ceci de la colère à venir. Romains chapitre 5 verset 9. Le docteur Torrey fait une très belle comparaison entre le pardon et la justification. Mes chers amis, est-ce pas merveilleux ce que vous venez d'entendre? Car lorsque Dieu nous pardonne il nous enlève les haillons hideux, les vêtements sales de nos péchés. Et lorsqu'il nous justifie, il nous revêt de la gloire et de la beauté de Christ. J'aimerais tellement que chaque chrétien puisse comprendre cette merveilleuse vérité. Écoutez un des témoignages de cet homme de Dieu. Une dame particulièrement désespérée, voici ce qu'elle a écrit. « Ma culpabilité est si grande que je veux mettre fin à mes jours. » Je remarquais le numéro de téléphone au bas de la lettre et je demandais à ma secrétaire de composer le numéro pour moi. Elle me la passa et nous avons pu parler quelques instants. « Pourquoi donc êtes-vous angoissé au point de vouloir attenter à votre vie ?» lui demandai-je. « J'ai tellement honte de le dire, bredouilla-t-elle. Mais voyez-vous, j'ai eu 5 amants. Êtes-vous né de nouveau ?» C'est justement cela qui est terrible. « Oui, me répondit-elle. » Et sans plus tarder, je lui demandai si elle s'était repentie sincèrement et si elle s'était humiliée sincèrement et si elle avait demandé au Seigneur de lui pardonner. Là encore, elle me répondit par l'affirmative. « Croyez-vous, chère sœur, que Dieu vous a pardonné maintenant ?» Je n'en suis pas du tout sûr, répondit-elle calmement, d'une voix assez ferme. Il faut que vous sachiez ce que dit la Bible, pas ce que vous pensez ou ce que Satan vous chuchote à l'oreille. Si vous vous repentez sincèrement de vos péchés, le sang de Christ vous purifie entièrement. Et votre passé est effacé. Non seulement le Seigneur vous pardonne, mais il choisit d'oublier vos péchés. Je lui citais cette déclaration de Dieu dans les Saintes Écritures qui dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Ésaïe 43, versets 25 et 26. Elle a eu l'air très surprise, et puis elle ajouta, « Je suis tellement liée par ma culpabilité que je ne peux même pas prier. J'ai commis bien trop de péchés et ma condamnation est si grande que je ne peux même pas me rendre à l'église ni adorer le Seigneur. Je préférerais mourir à l'instant même, poursuit-elle en pleurant. Je l'interrompis pour lui demander depuis combien de temps cette situation dure. « Eh bien, cela fait 28 ans, répondit-elle en larmes. Et vous voulez me dire que cela fait si longtemps que vous vivez ainsi ? Oui, et je ne le supporte plus du tout. Je décidai d'attirer son attention. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez attristé l'Esprit Saint ? Comment cela ? Que dites-vous ? Demanda-t-elle. Eh bien oui, chaque fois que vous pensez que Christ ne peut pas vous pardonner, vous attristez l'Esprit Saint? Oh, cela ne doit pas être possible, s'exclama-t-elle. Et c'est pourtant ce que vous avez fait. Et si vous continuez ainsi, vous n'aurez jamais la victoire dans votre vie. Vous vivez une vie d'incrédulité. Dieu vous a promis qu'il ensevelirait tous vos péchés, et vous ne le croyez pas. Comment le pourrais-je? Eh bien, repentez-vous maintenant devant le Seigneur et demandez-lui de vous pardonner de ne pas avoir cru à sa promesse. Je n'oublierai jamais le moment de prière très émouvante que nous avons eu ensemble au téléphone. Je sentis les liens qui l'entouraient se détacher et j'ai vu le soleil de justice pénétrer dans sa vie et cette dame fut totalement délivrée dès l'instant où elle accepta l'œuvre de Christ pour elle à la croix et où elle crut à la purification de son péché par le sang versé de la croix. Chers amis, lorsque vous vous tourmentez à cause de votre péché passé, cela revient à dire au diable, « Surtout ne pars pas, j'apprécie, oui j'apprécie tellement ta présence à mes côtés. » Et c'est en fait votre culpabilité qui le maintient près de vous. Mais si vous croyez en la parole, et si vous demandez au Seigneur de vous laver, de vous pardonner et de vous délivrer de votre péché, vous serez libéré de tout ce que l'ennemi tentera contre vous. On a besoin de faire taire nos sentiments, nos impressions, en dents de scie. On peut dire que c'est vraiment des dents de scie, nos mauvaises pensées et nos soi-disant amis qui ne se gênent pas du tout pour nous dire à quel point nous sommes tellement moches. On a donc besoin de croire en la Sainte Parole lorsqu'elle nous déclare « En lui, nous avons la rédemption par son sang précieux. Nous avons la rémission des péchés. » Et ceci selon la richesse de sa merveilleuse grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Le prophète Michée dit également que Dieu mettra sous ses pieds toutes nos iniquités et il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Michée chapitre 7, verset 19. J'ai eu un jour l'occasion d'entendre prêcher la fameuse Corrie ten Boom en Hollande. Elle disait « Dieu enlève tous nos péchés et il les jette au plus profond des océans et il plante un gros panneau qui porte l'inscription ici, la pêche est interdite. N'allez surtout pas pêcher ces péchés-là. C'est absolument interdit. Ce n'est pas parce que nous voulons effacer la mémoire de notre passé que nous allons y parvenir. Ce n'est pas en disant simplement « je vais oublier tout mon passé » que nous allons être libérés d'une vie pécheresse. Dieu a déclaré qu'il nous purifierait et que le sang purifiera complètement notre conscience, non seulement nos transgressions, mais toutes les pensées qui y sont liées. Rien d'autre que le sang de Christ ne peut purifier notre esprit des pensées, des péchés passés et des péchés présents. Il est dit en Hébreux au chapitre 10, verset 21, « Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps totalement lavé d'une eau pure. » Au fond, qu'est-ce qu'une mauvaise conscience? C'est celle qui se souvient d'hier et nous murmure à l'oreille « Tu es un pécheur, tu es foutu ». Cependant, dans les cieux, au ciel, le Seigneur nous dit « Sois le bienvenu, mon enfant, car je t'ai délivré de tous tes péchés. Tu es pardonné. Seuls les saints peuvent y entrer et le sang t'a justifié. Vous êtes nombreux à vous dire qu'il est impossible de se tenir devant Dieu avec la seule justice de Christ. Et pourtant, c'est la réalité. Comme le sang de Jésus-Christ est pur, nous sommes purifiés aux yeux de Dieu. Le Seigneur purifie notre esprit du passé et du présent. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi j'aime chanter « Veux-tu briser du péché le pouvoir ? La force est dans le sang de Christ. » Par sa promesse, nous pouvons à présent déclarer « Le sang de Christ a lavé mon passé et je suis libre. » Satan essayera toujours, c'est son rôle, de nous tourmenter en nous disant « Et là, et ton passé ?» Alors vous pouvez lui rétorquer « Mais quel passé ? Je n'ai pas de passé. Tout a été payé. Il est parti pour de bon. Christ, lui, a payé ma dette totalement. Et je suis libre. » Chers amis, avant de terminer, je vous raconte encore cette petite anecdote. Un jour, je me souviens avoir porté à la blanchisserie d'une de mes chemises, une de mes chemises préférées. J'ai besoin de votre aide et je dis à la chef, je vous ai confié déjà deux fois cette chemise et la tache est toujours là. Je me demande pourquoi. Laissez-la nous encore une fois, répondit-elle. Nous allons essayer une fois de plus. Et lorsque je suis revenu la chercher, la directrice me dit « Monsieur, nous avons essayé les meilleurs produits qui soient, mais la tache se voit encore un peu. Elle sera permanente, malheureusement. Elle ne partira jamais. Je regrette beaucoup. » Mais, voyez-vous, ce n'est pas la réponse que j'ai reçue en donnant ma vie taché de péché au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pensons pas que le sang versé du Fils de Dieu est un produit pour enlever les taches, et pourtant, c'est une réalité. Le sang de Christ est si efficace qu'il enlève toutes les marques et toutes les taches de nos péchés. Quand vous vivez une vie de péché, vous êtes forcément esclave. Or, vous entendrez dans le CD prochain ce que Christ Jésus a fait pour tous ceux qui sont esclaves du passé. Chers amis, et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez donc bénis et merci pour la peine que vous vous donnez pour écouter ces études, pas toujours faciles. Vous pouvez réécouter plusieurs fois un CD qui semble vous donner quelques difficultés. Et merci pour tout. Et à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.